C'est très connu. Notre conduite, nos comportements commencent dans la tête, dans la boîte à pensée. En fait, chacun agit en fonction de ce qu'il juge important ou vrai. Ce sont mes valeurs qui dictent ce que je fais. Si ce que je crois est faux ou incorrect, il est peu probable que mes actions seront justes et droites par rapport aux critères divins. Je m'entends. Comme mes croyances ont une incidence sur ma façon de vivre, elles sont très importantes, surtout dans le domaine spirituel ou religieux. C'est bien l'avis de l'apôtre Paul qui considérait que pour la bonne marche d'une église, une doctrine saine était essentielle et primordiale autant que les fondations d'une maison. Je continue à lire dans le premier chapitre de sa première épître à Timothée. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi. Verset 3. Partout où l'apôtre annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ et créait une nouvelle église, il pouvait être sûr que des faux apôtres, faux prophètes, faux frères, faux jetons étaient sur ses talons, bien décidés à lui casser la baraque. Par exemple, ils avaient infesté l'église des Galates, même racine que Gaulois, où ils prêchaient un autre évangile que celui de Paul. Furieux, l'apôtre leur écrivit une lettre cinglante dans laquelle il dit « Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit !» Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Paul ne mâchait pas ses mots. Avant sa première arrestation par Rome, il avait averti les responsables de l'église d'Éphèse leur disant « De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Et c'est exactement ce qui était arrivé. Éphèse était un centre urbain important où l'apôtre Paul avait déjà passé plus de 2 ans au cours de son 3e voyage missionnaire, suite à quoi il fut emprisonné. Une fois remis en liberté, son premier objectif a été de retourner à Éphèse en compagnie de Timothée et peut-être aussi de Tite parce que l'église était menacée par des fausses doctrines. Arrivé sur place, il a commencé à faire le ménage en expulsant de l'église au moins 2 hommes, Hyménée et Alexandre, qui étaient probablement les principaux fautifs. Puis, devant partir pour la Macédoine, une province romaine située en Grèce, il a confié à Timothée le soin de finir le travail. Dans sa lettre, il lui rappelle qu'il l'avait encouragé à demeurer à Éphèse. En réalité, le mot pour encourager est beaucoup plus fort dans le grec puisqu'il veut dire supplier, implorer. Ce détail n'est pas sans importance parce qu'il nous informe que Timothée n'était pas tellement emballé à l'idée de rester à Éphèse pour croiser le fer avec les hérétiques. Ce brave jeune homme était sans doute intimidé par les faux prophètes car il ne se sentait pas de taille à se mesurer avec eux, surtout que ces hommes occupaient une position d'autorité dans l'Église. Et puis, pour compléter le tableau, en restant à Éphèse, Timothée courait le risque d'être persécuté. Alors qu'il ait voulu prendre le large, qui le blâmera? Il aurait préféré accompagner Paul en Macédoine, mais sur la demande de Paul, il est resté sur place. Timothée était chargé d'avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi. Paul utilise le mot « certains », ce qui sous-entend que les faux frères étaient peu nombreux. Cependant, leur influence se faisait sentir et il fallait sévir. Le roi Salomon écrit « Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une bonne réputation. » Le mot pour avertir signifie « commander », comme lorsqu'un officier ordonne à un soldat d'effectuer une certaine tâche. En d'autres mots, ceux qui donnent un enseignement doctrinal erroné doivent être corrigés sans ménagement. Toujours à leur sujet, Paul écrit à Tite « Il faut leur fermer la bouche ». On ne saurait être plus clair. Ces faux frères étaient coupables d'enseigner des doctrines étrangères à la foi. En grec, cette expression est un seul mot, probablement fabriqué par Paul, et qui veut dire « enseigner quelque chose de différent ». différent par rapport à la vérité de Dieu que les apôtres avaient reçue par révélation et qu'ils annonçaient. Pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, une personne doit accepter comme vraies les doctrines originelles apostoliques, comme l'inspiration des Écritures, la déchéance de l'homme et son besoin de salut, la naissance miraculeuse de Jésus, sa divinité, sa mort expiatoire sur la croix, le jugement et la condamnation de tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur. C'est ce que les apôtres enseignaient au premier siècle de notre ère et depuis, le contenu de la foi n'a pas changé d'un iota. Il n'y a pas eu la moindre évolution avec le temps. Aujourd'hui encore, l'Ancien et le Nouveau Testament constituent la vérité de Dieu. Notre culture, les us et coutumes s'adaptent aux générations, mais ce que Dieu a dit reste figé dans le temps et l'éternité. Ceci dit, certains passages des Écritures peuvent être interprétés différemment, ce qui explique les divergences entre familles d'Église comme dans le domaine des dons de l'Esprit et de l'eschatologie, c'est-à-dire ce qui doit arriver à la fin des temps. Cependant, si dans une assemblée, l'enseignement concernant les grandes doctrines chrétiennes n'est pas conforme à celui des apôtres, ce n'est pas une église au vrai sens du mot, peu importe comment elle s'appelle, la renommée du pasteur, le statut social de ses membres, leur budget en faveur des pauvres, l'importance de la chorale, la qualité de sa musique sacrée, la beauté de ses vitraux ou l'épaisseur de la moquette. Si la doctrine n'est pas conforme à celle du Nouveau Testament, cette assemblée est hérétique. L'apôtre Paul écrit donc à Timothée, « En partant pour la Macédoine, je t'ai supplié de rester à Éphèse pour ordonner à certains de ne pas enseigner quelque chose de différent. Que ces personnes mal avisées cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de favoriser l'œuvre de Dieu. » Dans la foi. Versets 3 et 4. Après avoir décrit les faux frères, Paul explique brièvement en quoi consiste leur fausse doctrine. Il s'agit de mythes, mais l'apôtre ne précise pas lesquels, ni à quoi servaient les généalogies. On peut supposer que les faux frères discutaient sur les origines et les descendants des patriarches dont la liste se trouve dans la Genèse, et faisaient une interprétation allégorique de leur nom. Ce qui est sûr est que cet enseignement erroné consistait en un syncrétisme religieux, un amalgame composé d'éléments de la loi de Moïse, c'est-à-dire du légalisme, mélangé avec certaines formes d'ascétisme issues du paganisme grec. Une des principales hérésies en vogue au 1er siècle consistait à voir l'Église comme la continuation du judaïsme. On sait aussi qu'Éphèse était un centre de religion à mystère, avec plusieurs temples dédiés à diverses divinités, ce qui fait que dans la ville, toutes les croyances possibles et imaginables se côtoyaient. Au 1er siècle, les philosophes grecs avaient pondu une théorie qui donna plus tard naissance au gnosticisme. Ils enseignaient qu'un dieu originel avait donné naissance à des divinités inférieures qui en avaient généré d'autres, et ainsi de suite. Ces philosophes n'étaient pas opposés au christianisme, mais l'adaptaient à leurs croyances. Pour eux, Jésus était l'une de ces divinités qui descendaient de la principale. Ces théories fantaisistes étaient aux antipodes de l'enseignement apostolique et créaient la zizanie dans l'Église. Et comme le dit Paul, elle faisait naître des spéculations au lieu de favoriser l'œuvre de Dieu dans la foi. S'inspirant de légendes, les faux frères fabriquaient de toutes pièces des histoires à dormir debout qui n'avaient rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'annonçait l'apôtre Paul. Les innombrables religions du monde ont un tronc commun. Elles mettent en avant les accomplissements humains enseignant que les hommes peuvent gagner le salut par leurs propres efforts grâce à des bonnes œuvres et des rites plus ou moins élaborés. Les hérésies que combattait Paul dans toutes les églises avaient toujours ces composantes. Comme cette croyance entraîne une malédiction éternelle, il fallait la combattre sans ménagement et avec fermeté. Je continue le texte de Paul. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Versets 5 et 6. La prédication de la vérité et les mises en garde contre les fausses doctrines ont pour objet d'appeler les hommes à se confier en Jésus-Christ. Le croyant est purifié de ses fautes et reçoit une nature nouvelle. Il peut alors manifester les fruits de l'esprit, dont l'amour, qui est la marque du chrétien authentique. Un cœur pur, c'est-à-dire désintéressé, est nécessaire pour obéir au premier et plus grand commandement de la loi, qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seconde condition préalable à l'amour de Dieu et des autres est une bonne conscience, c'est-à-dire en accord avec l'enseignement moral des Écritures. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a doté de la faculté de pouvoir se juger lui-même et il a aussi écrit sa loi dans son cœur. Tout homme possède donc une connaissance au moins élémentaire du bien et du mal. Quand il viole cette norme qui est en lui, sa conscience agit comme un système de sécurité en provoquant un sentiment de culpabilité. La honte ou la peur ainsi suscitées en lui sont comme un feu rouge qui l'alerte des menaces qui pèsent contre le bien-être de son âme. À l'inverse, lorsqu'un croyant accomplit la volonté de Dieu, il bénéficie de l'approbation divine, d'un sentiment d'assurance, de la paix et la joie qui sont les fruits d'une bonne conscience. Au lieu de produire l'amour, les fausses doctrines conduisent à des argumentations sans fin qui créent des tensions entre les membres de l'Église et qui les détournent des responsabilités que Dieu leur a confiées. Paul en est très conscient et veut donc ramener les chrétiens à l'essentiel, l'amour de Dieu qui se traduit par l'amour fraternel et qui se caractérise par le sacrifice de soi pour les autres. Mais cet amour sincère et authentique ne peut venir que d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Or, les faux frères ont le cœur rempli d'hypocrisie. Leur conscience est cautérisée au fer rouge et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les assemblées chrétiennes sont obligées de s'organiser et de se doter de dirigeants spirituels. Qu'elles choisissent une forme de gouvernement d'inspiration épiscopale, presbytérienne ou communautaire n'est pas important si la foi en Jésus-Christ et l'amour pour les autres sont les valeurs dominantes. Dans le cas contraire, ce n'est pas une église mais un club de religion où on se chamaillera sans cesse parce que chacun voudra avoir raison. Je continue le texte. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Verset 7. Les faux prophètes désiraient plus que tout au monde enseigner la loi, celle de Moïse, bien entendu. Seulement, leur objectif n'était pas d'apprendre à connaître la loi ou le Dieu qu'il avait donné, ou d'être dévoués à servir les membres de l'Église. Ce qu'ils désiraient était le prestige dont jouissaient les rabbins de religion juive. Mais ils le recherchaient dans des églises chrétiennes fondées par l'apôtre Paul. Ils étaient semblables aux pharisiens que Jésus a fustigés et auxquels il a dit « Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes ». Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres. Et les franges de leurs manteaux plus longues, ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Ces hommes orgueilleux ne cherchaient pas l'approbation divine, mais la louange des hommes. Leur motivation était l'inverse de ce qu'elle aurait dû être. L'apôtre Jacques écrit « Mes frères, « ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Celui qui comprend le rôle spirituel d'un prédicateur de la bonne nouvelle sait aussi que ce n'est pas du tout comparable à un mandat politique où, après avoir écrasé ses adversaires, L'heureux élu peut gonfler la poitrine et se remplir les poches sous les applaudissements d'un public béat d'admiration. L'apôtre Paul a pris des coups tout au long de son ministère avant d'y laisser sa vie. Il est mort en martyr. Être au service de Dieu et demeurer fidèle à sa parole demande une bonne dose d'humilité, car il faut aussi accepter de passer pour stupide aux yeux des non-croyants. Imaginez ce que représente aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde la croyance en une interprétation littérale de la Genèse où Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. Vous m'avez compris. Les faux prophètes qui suivaient Paul à la trace n'avaient pas reçu un appel de Dieu et n'étaient pas humbles pour un sou. Loin s'en faut, ils cultivaient leur ego en cherchant à occuper une position d'autorité dans l'Église. Parce qu'ils désiraient le prestige d'un rabbin juif, ils essayaient d'imposer aux églises qu'ils infiltraient une hérésie légaliste qui prônait un salut fait maison au moyen de bonnes œuvres et de rites calqués sur la loi de Moïse. Contrairement aux véritables hommes de Dieu, pieux et humbles comme Paul ou Timothée, les faux prophètes recherchaient la prééminence, le pouvoir et l'opulence. Ils n'avaient pourtant pas grand-chose à offrir, car selon ce que dit Paul, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Le verbe « comprendre » est un participe présent qui traduit une situation permanente. En d'autres mots, ces faux prophètes n'étaient pas en état de comprendre la parole de Dieu. Comme ils n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ne bénéficiaient pas de l'assistance du Saint-Esprit, sans lequel les textes sacrés demeurent un livre hermétiquement fermé. Dans une autre épître, Paul écrit que l'homme psychique ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est pure folie pour lui et il ne peut le comprendre ou le saisir, car c'est spirituellement qu'on en juge. Non seulement ces faux prophètes ne comprenaient rien à rien, mais ils étaient sûrs d'eux-mêmes, prétentieux, comme s'ils avaient parlé ex cathedra de la part de Dieu. C'est déjà grave d'être ignorant dans le domaine où on prétend vouloir instruire les autres. Mais en plus, ces gens étaient dogmatiques dans la propagation de leur ignorance. Depuis, la situation n'a pas évolué vers un mieux. Dans les églises qui se disent chrétiennes, on trouve de tout, mais surtout des tambouilles religieuses qui vous servent un peu de vérité biblique mélangée avec beaucoup de paganisme, le tout enrobé dans les traditions humaines. Je continue le texte de Paul. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Verset 8. Après avoir sévèrement condamné les faux frères qui se posent en enseignants de la loi, l'apôtre ne veut surtout pas que Timothée ou ceux qui liront cette lettre se méprennent sur la valeur de la loi, alors il s'empresse d'ajouter que la loi est bonne. Ailleurs, Paul écrit aussi que la loi est sainte et le commandement saint, juste. Est bon. Sa valeur tient au fait qu'elle reflète la volonté de Dieu pour l'homme. La loi est bonne à condition d'en faire bon usage, et c'est bien là que se situe une des erreurs doctrinales qui menaçait l'église d'Éphèse. L'apôtre a déjà mentionné l'influence néfaste des religions à mystère, de l'idolâtrie qui abondait partout, et des extrapolations fantaisistes que les mystiques du judaïsme tiraient des généalogies de l'Ancien Testament. Maintenant, il va parler des dangers du légalisme juif qui enseignait qu'en obéissant à la loi, l'homme pouvait gagner son salut et devenir juste devant Dieu. Aveuglés par leur orgueil, les faux prophètes utilisaient la loi de Moïse à mauvais escient. Ils croyaient qu'elle était le moyen de satisfaire la justice divine en essayant de la suivre. Mais la loi n'a jamais été donnée dans cette intention. Son but est au contraire de montrer aux hommes leur état de pécheur et donc leur besoin d'un sauveur. La loi m'oblige à reconnaître que j'ai enfreint les commandements de Dieu. Étant déclaré coupable, je suis sous son jugement. Sous le régime de la loi, le meilleur des êtres humains est irrémédiablement condamné. Par contre, sous la grâce, le pire des malfaiteurs est sauvé s'il place sa confiance en Jésus-Christ. Un pécheur ne peut pas obtenir le salut par le biais de ses bonnes œuvres parce qu'il n'a pas la capacité d'accomplir une action quelconque qui soit absolument droite et juste, mesurée avec l'étalon de perfection divin. Il est tout simplement impossible à un homme de faire quelque chose qui soit totalement, entièrement dénué d'intérêt personnel. Par contre, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il n'y avait pas en lui la moindre parcelle d'égotisme et son sacrifice était totalement désintéressé. Nul ne peut gagner le ciel en pratiquant les bonnes œuvres. Par contre, celui qui a la foi en Jésus-Christ est capable de plaire à Dieu. Je ne peux acquérir le salut par mes bonnes actions, mais je suis sauvé afin de faire des bonnes œuvres pour Dieu. Ailleurs, Paul écrit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Suivre la loi entraîne une vie morale excellente, ce qui est une conduite très honorable. Cependant, elle ne peut pas pourvoir à mon salut parce que quand je chercherai à lui obéir, chaque fois que je la transgresserai, elle révélera le péché qui est en moi.